écoutez IDFM. Il est 14h.
Chers auditeurs d'IDFM Radio Anguien, et bienvenue pour votre rendez-vous du vendredi avec votre émission Un bout de chemin ensemble, avec pour vous servir votre animatrice préférée, Isabelle Gonce. Et je suis aujourd'hui accompagnée à la technique par Alex. Alors, le sujet d'aujourd'hui n'est pas très original, il s'agit du stress. Pourtant, en plus de 2 ans d'émission Un bout de chemin ensemble, il me semble bien que c'est la première émission qui est consacrée vraiment au stress en tant que tel. Et vous me direz, il était temps, parce que c'est quand même un sujet qui concerne énormément de monde. Tout le monde connaît, la plupart des gens se sont déjà sentis stressés, ou certains le sont très régulièrement. Alors, juste quelques chiffres pour situer un petit peu son importance. 1 personne sur 3 se considère comme stressée, et en entreprise, ça va même jusqu'à 4 personnes sur 10 qui se disent plus stressées qu'avant. Et il semblerait que 1 salarié sur 3 seulement aille au travail avec plaisir. Donc vous voyez, il y a quand même du boulot, si je puis dire, sur ce plan. Alors, parmi les étudiants, puisque c'est en ce moment la période des examens, hein, que ce soit les lycéens ou les étudiants, eh bien, il y en a 2 sur 3 qui se disent stressés en période d'examen et 1 sur 3 qui considère qu'il a du mal à gérer son stress. Donc, on va voir plus tard dans l'émission comment on peut les aider, ces étudiants, ces lycéens, mais également ces salariés, par des conseils très simples et très pratiques. Alors, un autre chiffre simplement pour finir, le coût du stress pour la société est énorme, puisqu'on considère qu'il coûte environ 3 milliards d'euros par an. C'est le principal responsable des arrêts de travail avant les douleurs musculaires. D'ailleurs, parfois, c'est la cause également de douleurs, hein, de douleurs physiques. Et c'est également la cause de dépression et de burn-out en entreprise. Voilà, donc le tableau est brossé, on parle d'un sujet qui touche beaucoup beaucoup de monde, et pour aborder cela aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Monnet, qui est coach, relaxothérapeute, spécialisée dans la gestion du stress. Bonjour Hélène Monnet.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne Radio Anguien. Donc vous êtes actuellement sur plusieurs radios, hein. Vous avez écrit un livre récemment sur le stress, un petit livre très pratique qui s'appelle 50 règles d'or pour ne plus stresser chez Larousse. Alors il tient dans la poche, hein, dans la poche d'un veston, dans un sac à main, il est vraiment tout petit, et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne vraiment des conseils très concrets qu'on peut appliquer au quotidien. Par rapport à son contenu, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour vous, comment vous définiriez ce livre par rapport à tout ce qu'on a pu lire par ailleurs sur le stress?
Alors d'abord, c'est un livre qui est le fruit de ma propre expérience au quotidien depuis déjà un certain nombre d'années. Et puis d'autre part, c'est un livre qui se veut extrêmement concrétopratique, qui va de ce que j'appelle le kit de première urgence au travail sur soi, avec différentes, on va dire, étapes d'évolution. Et ce qui est aussi important, c'est que il fait travailler sur le mental et sur le corps.
C'est très important. Dans le stress, c'est toujours lié, en fait, puisque il y a souvent des manifestations physiques du stress, finalement. Hein.
Alors, il y a de nombreuses manifestations physiques du stress. J'allais dire heureusement, parce que le corps est un très très bon vecteur d'alarme. Et si on sait l'écouter, il nous dit toujours dans quelle bonne direction aller. Encore faut-il être dans cette écoute.
Alors, par exemple, il peut y avoir des palpitations cardiaques, il peut y avoir des sensations dans le ventre. Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on est stressé?
C'est pas forcément le plus répandu. Je crois que les personnes souffrent très souvent d'abord de céphalées ou de maux de dos divers et variés, depuis les cervicales jusqu'aux lombaires. Et puis, elles sont aussi dans une irritabilité. Ce qu'on dit encore assez peu parce que c'est pas forcément toujours bien vu. Et il y a aussi des troubles qui peuvent passer relativement inaperçus, comme une certaine, on va dire, addiction, ou en tout cas une augmentation de consommation de café, de tranquillisants, voilà, voire quelquefois d'alcool aussi. Et bon, comme je travaille beaucoup en entreprise, je conseille les managers sur vraiment le repérage au quotidien de ces signes chez leurs collaborateurs, parce que dès que ces signes sont trop présents, eh bien on bascule petit à petit vers un stress qui est chronique, donc qui devient une pathologie et qui peut à terme mener éventuellement au burn-out.
Oui, parce qu'on peut dire qu'une petite dose de stress peut être positive, hein, ça peut vous amener à faire des choses, à avancer. Il y en a qui en ont besoin d'ailleurs pour travailler,
voilà,
faire des choses à la dernière minute. Mais au-delà d'un certain niveau, ça devient plus difficile.
Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress, en fait, c'est tout simplement une réaction tout à fait nécessaire par rapport à un enjeu, un challenge à remplir. Mais tant qu'on a les capacités de remplir cet enjeu, de faire face, eh bien, on est plutôt dans un bon stress. C'est plutôt le stress chronique qui va petit à petit user la personne, parce qu'il y a production de ce qu'on appelle le cortisol, c'est-à-dire une hormone qui doit normalement être stoppée assez vite dans le cadre du stress aigu, mais qui malheureusement continue d'être synthétisée et de faire du coup des dégâts au niveau notamment neurologique.
Et après, on peut aller jusqu'au burn-out, on peut aller...
Alors le burn-out, c'est une vraie dépression,
ouais.
il faut dire le mot, dont on se remet... hélas, très lentement, beaucoup de personnes d'ailleurs reviennent au travail un petit peu trop vite suite à un burn-out et rechutent. En général, il faut 2 ans pour s'en remettre totalement, avec bien sûr une médication appropriée, mais aussi une psychothérapie.
Et avec un arrêt de travail qui peut durer plusieurs mois, voire davantage.
Oui, c'est en général une assez longue maladie.
Alors aujourd'hui, on va essayer d'intervenir un petit peu en amont, hein, de voir ce qu'on peut faire justement pour ne pas en arriver là, à la fois dans sa vie privée et puis dans les entreprises. On va avoir une personne qui va intervenir là dans quelques minutes sur le monde de l'entreprise justement. En attendant, je voulais vous demander, Hélène Monnet, quel est votre parcours? Comment êtes-vous arrivée à accompagner des dirigeants, à coacher des dirigeants, à vous intéresser spécifiquement au stress?
Alors d'abord, j'étais une personne stressée.
Oui.
Bien sûr. J'étais dans un cadre professionnel à l'époque qui était l'audiovisuel, qui était assez difficile, parce que je côtoyais des personnes qui étaient toujours dans l'urgence, il fallait répondre à leurs exigences, quelquefois un petit peu démesurées, faut bien le dire, donc c'était pas si simple. Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime bien travailler dans la lenteur, consciemment, etc. Donc je souffrais d'être obligée d'aller au rythme de cette urgence. Et petit à petit, quand je me suis reconvertie et je suis devenue coach, pour moi, il a été complètement évident qu'il fallait que je travaille sur l'union du mental et du corps. C'est pour ça que j'ai commencé en tant que relaxologue. J'ai travaillé en cabinet médical avec des médecins généralistes qui m'ont envoyé leurs patients et qui souhaitaient ne pas être trop dépendants des médicaments, de pouvoir s'en détacher. Et du coup, en termes de méthode, eh bien, j'ai travaillé avec ce que j'appelle l'autorelaxation respiratoire, qui est une méthode qui est issue à la fois du yoga des souffles et de la sophrologie caïcédienne. Et c'est en unissant ces deux techniques que les personnes peuvent petit à petit, au bout de 6 séances, s'autonomiser et gérer leur stress en amont, avant qu'ils ne deviennent justement chroniques et donc nuisibles.
Donc vous êtes formé à différentes approches, vous le disiez, la relaxothérapie, donc le yoga, la sophrologie, des approches également pour accompagner les gens comme le MBTI.
Alors le MBTI, c'est autre chose, c'est plutôt une forme de profil, de profiling plus exactement, de personnalité. Pour que chaque personne puisse trouver vraiment sa place et de façon juste dans son travail ou dans sa vie. Donc ça, c'est un outil complémentaire à ce que je fais en termes de coaching de dirigeants ou de prévention de stress en entreprise.
Alors vous avez également une très bonne connaissance d'autres cultures, hein, notamment de l'Asie, avec une approche transculturelle. Ça m'évoque une question, est-ce qu'on peut dire que les Asiatiques peut-être, puisque c'est eux les créateurs du Qigong, sont plus zen que nous, ou est-ce qu'ils...
Alors je ne suis pas sûre qu'ils soient forcément plus zen, comme on dit.
Est-ce qu'ils ont des choses à nous apprendre peut-être?
Parce que le mot zen est un petit peu passe-partout, d'ailleurs le mot zénitude est passé dans le Petit Larousse il n'y a pas très longtemps je crois. Non, je crois que les Asiatiques ont une qualité, c'est qu'ils, de par leur culture, ils sont moins dans la dualité que nous. Ils sont plus dans une logique du « et » que dans une logique du « ou ». Donc ils sont, de ce fait, plus dans l'accueil de ce qui arrive, et non pas dans son rejet en fonction de prérequis un peu rigides, comme souvent en Occident.
Ils acceptent ce qui vient, quoi. Ils sont un petit peu fatalistes, si on peut dire, dans le bon
J'aime
sens
pas
du terme.
Non, fataliste. Non, parce que ça peut, de notre point de vue d'occidentaux, effectivement, apparaître comme du fatalisme. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de voir comment le moment présent peut être accueilli. Et ça, on le prend pas assez en compte. En Occident, me semble-t-il, on est trop dans une démarche d'anticipation. Et de ce fait, quand quelque chose vient contrevenir à ce qu'on attend, on est beaucoup plus justement stressé.
Je vous propose de faire une première pause musicale.
Thank you.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio Anguien. Pardon. Nous parlons aujourd'hui du stress avec mon invitée du jour, Hélène Monnet, qui est une spécialiste de la question. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler pour poser des questions si vous le souhaitez, 01 34 12 12 22, ou en direct également sur le site d'IDFM Radio Anguien, www.idfm98.fr. Voilà, nous accueillons maintenant une personne qui va nous parler de ce qui se passe au niveau de l'entreprise et de ce que l'on peut faire. Florence Bénichoux, vous êtes en ligne avec nous ?
Oui,
bonjour.
Isabelle.
Bonjour, merci d'accepter de témoigner. Donc Florence Bénichoux, vous êtes médecin. Au départ, vous avez monté votre agence de communication qui s'appelle Better Human and Company, tout un programme. Et vous êtes spécialisée donc depuis plusieurs années dans la qualité de vie au travail. Au départ, on va dire la gestion du stress, et puis de là, c'est aller plus loin vers la qualité de vie au travail. Donc vous conseillez, vous, de nombreuses entreprises, hein, de toute taille, pour développer une, ce que vous appelez une haute qualité humaine, et donc une meilleure, un meilleur climat et de meilleures conditions de travail en entreprise. Alors, pour vous, dans votre analyse, quelles sont aujourd'hui les principales causes de mal-être et de stress dans les entreprises ?
Alors, effectivement, compte tenu du fait que nous sommes dans de très nombreuses entreprises de toute taille, hein, des petites entreprises, des PME et des grands groupes, on voit bien que les causes de stress ne sont pas toujours les mêmes en fonction de la taille de l'entreprise, mais globalement, ce qu'on constate de façon très claire, c'est que les principales causes de stress au travail sont des causes organisationnelles. C'est-à-dire que ça dépend évidemment de l'organisation du travail, des conditions de travail et du type de management. Voilà, ça c'est essentiel pour moi parce qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est très bien que toute la psychologie positive se développe et qu'on s'occupe des individus et qu'on aide les individus à aller beaucoup mieux. Ce que je trouve encore mieux, si je puis dire, c'est de pouvoir traiter les causes et donc de bien identifier dans les entreprises les problématiques pour pouvoir non seulement les traiter, mais aussi, mieux encore, les prévenir.
Les prévenir, oui, parce qu'on a beau faire tout ce qu'on veut au niveau individuel, si on a, disons, des conditions de travail enfin, un management, enfin, des choses qui n'ont pas de sens en entreprise, ce sera mettre des pansements sur un problème, hein, pas le traiter.
Exactement.
Ouais, ouais.
Exactement. Ça va aider les gens à supporter leurs difficultés, sans aucun doute. Mais en revanche, si tous les jours ils reviennent et que tous les jours les mêmes causes sont là, eh bien, elles produiront les mêmes effets.
Alors,
d'où l'importance de faire prendre conscience aux entreprises mêmes du côté très néfaste de leur système d'organisation, de leur type de management, et de pouvoir les aider et les accompagner justement à progresser et améliorer. Et je dis toujours, quand on aide les entreprises à progresser de ce côté-là, donc quand on aide sur la qualité de vie au travail, on progresse aussi en performance économique.
Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure du burn-out, mais avant ça, il y a quand même déjà une baisse de l'efficacité des gens, je suppose, des conséquences sur...
La première chose qu'on voit, c'est en fait, comment je dirais, globalement, je dis toujours, les gens, ils aiment leur métier, ils aiment leur entreprise. Mais ils n'aiment plus du tout la façon dont ils travaillent, les conditions dans lesquelles ils exercent leur travail. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut arriver, c'est à réaméliorer les choses. Souvent les entreprises nous disent, oh, la qualité de vie au travail, c'est un peu la cerise sur le gâteau, je m'occupe de ça quand j'ai démarché des clients, fait mes projets, etc. Et nous, on leur dit non. La qualité de vie au travail, c'est pas la cerise sur le gâteau. Je dis toujours, c'est la farine du gâteau, c'est la levure même, c'est ce qui permet au gâteau d'exister.
Alors, c'est quoi
ces
problèmes
de... d'engagement ?
Oui.
Pardon.
C'est quoi ces problèmes de, par exemple, de management qui vont créer du stress ? Vous pouvez nous donner un exemple de type d'attitude ou de management qui clairement est néfaste ?
Alors, il y en a de plein de types. J'en donne un tout petit parce qu'il y a une étude qui vient de sortir tout récemment sur ce sujet-là.
Oui.
On voit bien qu'il y a un sentiment d'inéquité qui est de plus en plus fréquent dans les entreprises. C'est-à-dire que les managers, des fois, pour se faire aimer de l'un ou de l'autre de ses salariés, va accepter de faire des exceptions, plus pour l'un que pour l'autre. Et donc, naît très vite un sentiment d'inéquité dans une équipe. Le sentiment d'inéquité entraîne, et là, on a une étude qui le démontre de façon remarquable, le fait que ça entraîne des troubles du sommeil après chez les individus, chez les salariés. Le trouble du sommeil, c'est souvent en général le réveil plutôt à 4 heures du matin, hein, c'est pas que des difficultés d'endormissement.
Oui.
Ce sont des choses que les salariés ruminent. il y a une sorte de rumination derrière qui se met en place. Ces troubles du sommeil entraînent une fatigue importante et donc on est moins efficace au travail, on est moins engagé dans son travail et puis on est tout le temps en récrimination en disant bah oui de toute façon puisque j'allais dire je suis pas reconnu à ma juste valeur, puisqu'il y a des différences qui sont faites dans l'entreprise et que le management n'est pas toujours exemplaire. Et bien effectivement, ça entraîne ce fort désengagement.
Hélène Monnet, vous vouliez intervenir, je crois.
Oui, je voulais intervenir parce que je connais bien donc ce que vient d'évoquer Madame Bénichoux. La NDRH, donc la Fédération des RH de France, il y a quelques années, avait montré que la reconnaissance salariale des employés était loin d'être suffisante par rapport à leur reconnaissance en général et qu'une vraie reconnaissance authentique, je dis bien authentique, de la part de leur manager régulièrement par rapport à des compétences, par rapport à des objectifs remplis, mais aussi par rapport à leurs valeurs humaines en général, était très très important pour la qualité du travail à terme.
Cette reconnaissance passe par l'argent un peu, mais beaucoup aussi par d'autres signes de reconnaissance.
Exactement. Je vous rejoins tout à fait, ouais. Madame. Et là-dessus, nous, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la reconnaissance symbolique, ce qui permet de dire aux gens, je vous remercie, Madame, Monsieur, pour la contribution que vous avez apportée à la réussite de tel ou tel projet. Parce que la problématique qu'on a aujourd'hui aussi, c'est qu'on a une retaylorisation du travail, un découpage du travail en petits morceaux, et ce qui fait que les gens ne voient plus forcément ce à quoi ils contribuent.
Il manque un peu de sens finalement, c'est ça?
Exactement, ouais. Ça manque de sens, et quelque part, ben, comme ils n'ont plus le sens des choses, ben, même les managers, ils finissent par plus exactement avoir forcément eux-mêmes le sens des choses, donc ils ne sont même plus en capacité de reconnaître le travail qui est fait par leurs collaborateurs.
Et ça, c'est dû aux réorganisations, par exemple, aux grands groupes, avec les décisions qui sont de plus en plus prises à l'étranger ou de façon centralisée, par exemple.
Je dirais, au-delà même, effectivement, des réorganisations et de ces centralisations du pouvoir, entre guillemets, je pense aussi que ce qui est très important, c'est le fait que le manager ne connaît plus forcément le travail de son équipe. Très souvent, on voit des financiers qui arrivent à la tête d'un certain nombre d'entreprises et des managers qui sont complètement déconnectés de la réalité du travail. Donc, quand on ne connaît plus le travail, on ne peut plus le reconnaître.
Oui, ce ne sont plus des spécialistes qui ont évolué, par exemple, dans leur métier pour devenir manager, mais des gens qui viennent d'une autre fonction, éventuellement.
Voilà. Alors, parfois, ils peuvent être excellents managers et chercher à comprendre le métier que font leurs équipes. Et à ce moment-là, ils peuvent rentrer aussi dans le... Il n'y a pas que des mauvais managers, hein, y a aussi des très bons managers qui sont tout à fait capables, sans être des experts du sujet, d'être des gens qui comprennent, et c'est ce qu'on leur demande, c'est de comprendre ce que font leur équipe et d'être capables, en revanche, de valoriser aussi les équipes sur les efforts accomplis, pas seulement sur les résultats, mais aussi sur les efforts accomplis, sur des gens qui sont allés, par exemple, se former plus aussi, donc sur les compétences acquises, et puis évidemment sur les résultats. Mais je pense qu'il faut apporter une vraie reconnaissance aujourd'hui aux salariés. On est un des pays en Europe qui reconnaît le moins. Je dis souvent, nos managers ne savent pas dire merci.
Ouais. Hélène, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, il y a aussi quelque chose qui est très dommageable, ce sont l'importance, selon moi, inconsidéré des logiciels de gestion dans les ressources humaines. L'autre jour, j'étais dans un salon dédié aux ressources humaines et je me suis rendu compte que les deux tiers des exposants présentaient des produits informatiques de gestion du personnel et on a ainsi déconnecté la charge de travail de la véritable évaluation en profondeur de quelqu'un. Et ça, c'est beaucoup lié à ces logiciels qui dictent, en fait, la conduite des directeurs de ressources humaines.
Alors vous, Florence Bénichoux, que proposez-vous? Quelle est votre démarche dans les entreprises, justement?
Puisque vous avez bien compris, notre démarche, elle est d'abord d'identifier les causes avec nos clients. De comprendre pourquoi, effectivement, il y a autant de stress, pourquoi il y a autant de turnover, pourquoi il y a autant d'absentéisme, pourquoi il y a autant de désengagement dans l'entreprise.
Donc vous faites un audit, vous posez beaucoup de questions à des dizaines, des centaines de salariés dans les entreprises où vous intervenez.
On fait un audit quantitatif avec un questionnaire et ensuite on fait des entretiens qualitatifs, on fait de l'ergonomie aussi, on va avoir l'observation du travail. Et tout ça nous permet vraiment d'avoir un diagnostic extrêmement fiable. Mmh. À partir de là, on travaille évidemment en co-construction avec nos clients sur des plans d'action. Mais très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive effectivement à faire le diagnostic, faire les plans d'action. Après, le plus compliqué pendant les entreprises, c'est de mettre en œuvre les actions. Mmh. Et ce qu'attendent les salariés, eux, c'est justement la mise en œuvre. Et pour les aider dans cette mise en œuvre, en fait, nous avons conçu effectivement un projet, un concept au départ, hein, qui est le concept des entreprises haute qualité humaine.
Oui.
Donc là, effectivement, on essaye, à partir d'un référentiel scientifiquement validé, de façon assez simple, d'expliquer qu'une entreprise qui va développer de la haute qualité humaine, qui va révéler, en fait, la haute qualité humaine qui existe dans l'entreprise. Mais en structurant cette démarche, on arrive en fait à balayer l'ensemble des grandes thématiques de la qualité de vie au travail et surtout de donner des outils pour piloter, pour je dirais monitorer l'évolution de cette qualité de vie au travail et qui permet effectivement de faire de la prévention de façon beaucoup plus sereine avec des thématiques extrêmement simples et compréhensibles par tous. Puisque notre souhait est de pouvoir effectivement développer des entreprises qui soient à la fois plus sûres en termes de sécurité au travail, plus saines, c'est-à-dire dans lesquelles on puisse tenir compte de la santé de l'individu et qu'on puisse préserver la santé de l'individu. Mais on va travailler aussi sur l'organisation du travail et essayer de développer des organisations qui ont des process plus simples. Aujourd'hui, on est dans une telle complexité que les gens ne savent même pas qui fait quoi, comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres. Mmh.
Les processus enfin, de décision sont compliqués,
exactement.
Etc.
Ouais. Mmh. Enfin, il nous reste deux étages, si vous voulez, à notre démarche HQH, c'est l'étage plus serein et plus de sens. Alors, plus serein, c'est évidemment pouvoir respecter un équilibre entre les différentes vies, vie professionnelle, vie personnelle. Aujourd'hui, on voit bien à quel point la vie professionnelle déborde complètement sur la vie personnelle. Et puis, le dernier étage, si je puis dire, c'est le plus de sens, c'est la vision qui doit être partagée pour savoir quel est le sens de mon travail, comment je contribue, effectivement, moi, en tant que salarié, j'allais dire, au sens général de l'entreprise.
D'accord. Alors ça, c'est une démarche que vous faites, vous, avec des très grosses entreprises, hein, des entreprises de moyennes ou petites, enfin de toute taille, finalement.
De toute taille.
Ça commence vraiment à rentrer... Alors, je suppose que ça nécessite plusieurs mois, enfin, nécessite un engagement du top management, et puis quand même plusieurs mois pour se mettre vraiment en place.
Alors, oui, ça, c'est vrai que ça peut nécessiter plusieurs mois, mais ça peut se faire aussi de façon très rapide. Parce que justement, grâce à cet outil en fait qui est la haute qualité humaine, on essaye de faciliter le travail et surtout de permettre aux gens, en fonction de là où ils en sont, de les prendre là où ils en sont. Il y a des gens qui ont énormément progressé parfois sur certaines des thématiques et pas sur d'autres. Donc on fait d'abord un état des lieux avant même de commencer à travailler, et ensuite on regarde là où c'est le plus important pour eux de progresser. Et on leur dit, on va vous donner des indicateurs et des outils pour pouvoir progresser plus vite sur les éléments sur lesquels vous vous sentez un petit peu en faiblesse ou en retard. Et en même temps, continuons à développer ceux sur lesquels vous excellez.
D'accord. Alors, je précise, Florence Bénichou, que vous intervenez justement à ce sujet la semaine prochaine, dans le cadre d'un salon qui a lieu à Paris, à la Porte Maillot, le salon Vita Elia, qui est le premier salon du bien-être dans l'entreprise. Donc, c'est quand même notable, hein, de voir que les choses bougent. Il a lieu donc le mardi 27 et le mercredi 28 mai, et il est ouvert à tous, hein, gratuitement, particuliers, entreprises, vous pouvez vous y rendre. Donc vous aurez votre intervention, je crois, le mardi vers 12h, c'est ça ?
C'est ça.
Et il y aura des dizaines
de 12h à 13h.
Voilà. Il y aura des dizaines d'intervenants sur ce sujet du bien-être en entreprise. Donc c'est les choses sont quand même en train d'avancer. Ça c'est bien.
Il y a une réelle prise de conscience aujourd'hui,
ouais,
du fait qu'on peut plus travailler comme ça, qu'il faut inventer une autre façon de travailler. Notre accroche c'est de dire nous, et si on travaillait autrement ? Effectivement, on pourrait être bien plus performant en termes économiques, parce que si on libère un peu l'esprit des salariés, on va relibérer leur créativité, leur pouvoir d'innovation, et donc très clairement, la performance. Vous savez, les entreprises cherchent aujourd'hui la compétitivité, mais elles écrasent tellement leurs salariés qu'ils ne peuvent pas être innovants, créatifs.
Ouais, c'est contradictoire.
Exactement. Et ils ne se font même plus plaisir au travail. Moi, j'insiste beaucoup aussi sur le fait que la haute qualité humaine, ça doit permettre aussi aux gens de se faire plaisir dans leur travail.
Très bien. Dernière petite chose, peut-être Florence Bénichou, c'est le service Météo Stress que vous avez lancé il y a quelques années déjà et qui s'adresse également aux particuliers, je crois.
Tout à fait. Alors, site. En fait, c'est un site internet grand public qui permet aux gens de faire de l'auto-évaluation de son propre stress et de l'auto-coaching. Donc il suffit d'aller taper www.meteostress.com et là vous pouvez aller, vous évaluer, vous suivre dans le temps. Voilà, c'est un site qui continue à vivre sa vie sans aucun souci, qui est plus destiné là aux particuliers effectivement, alors que la démarche dont je viens de vous parler, évidemment, est plus destinée aux entreprises, quelle que soit leur taille.
Très bien. Merci beaucoup Florence Bénichou d'être intervenue. Et alors donc rendez-vous pour nos auditeurs qui sont intéressés au Salon Vita Elia, Porte Maillot, mardi et mercredi prochain, le 27-28.
Merci mesdames, portez-vous bien.
Voilà, vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Bravo.
Oui. Hélène Monnet, un commentaire sur cette intervention de Florence Bénichou, vous qui accompagnez beaucoup de managers.
Oui, je pense qu'elle fait tout à fait un travail remarquable à première vue. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que je suis peut-être plus dans une logique du « et » que Madame Bénichou, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut à la fois travailler sur l'organisationnel et sur le management, mais aussi sur la possibilité des salariés et collaborateurs d'être autonomes dans la gestion de leur stress au quotidien. Parce que nous ne sommes pas tous égaux devant le stress. Nous avons des histoires psychologiques, des histoires sanitaires différentes.
Et de santé, donc, quoi, des
voilà.
Problèmes de santé.
Et donc, je pense qu'il faut faire les deux. Et c'est les deux conjointement qui, à terme, vont permettre une réelle efficacité et aussi une pérennisation de cette maîtrise du stress.
D'accord. Oui, parce qu'on pourra pas, c'est sûr, diminuer, supprimer toutes les causes de stress en entreprise et même dans la vie, d'ailleurs, hein. La vie est une source de stress finalement constante si on ne sait pas y faire face et s'y adapter.
Bien sûr, moi je parlais du mauvais stress, sûr, évidemment. L'autre, bon, on sait toujours quoi faire avec.
Ouais. Bien, je vous propose à nouveau de faire une pause musicale.
Thank you.
c'était la sonate du printemps de Beethoven, choisie par mon invitée d'aujourd'hui, Hélène Monnet, qui fait la musique aujourd'hui, hein, qui a choisi toutes les musiques.
Et c'est Capuçon qui joue.
C'est Capuçon qui joue. Ah ah, précision importante. Alors, vous êtes toujours sur IDFM Radio Anguien. On parle aujourd'hui du stress, un sujet qui nous concerne ô combien. Et vous êtes les bienvenus avec vos questions, si vous le souhaitez, au 01 34 12 12 22. Donc, nous avons là une personne qui nous appelle pour témoigner de son expérience du stress. Bonjour, Katia.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'appeler, d'intervenir. Donc, vous êtes quelqu'un qui a, comme tout le monde, des situations de stress et qui a appris à les gérer, à faire avec. Quelles sont vos principales... déjà, peut-être dites-nous ce que vous faites dans la vie, si vous voulez, et puis, quelles sont vos principales situations de stress?
Alors, moi, je suis styliste, créatrice de mode. Et je suis à mon compte, donc il y a une multitude de raisons d'être stressée parfois, inquiète, quant au lendemain. Donc, j'ai souvent recours à des méthodes, des petites techniques que j'inclus dans mon quotidien. Quand je sens que je suis énervée ou qu'une situation me dépasse.
Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites au quotidien, justement?
Alors, ça dépend du type de stress dans lequel je me trouve, mais ce que je fais en premier lieu toujours, c'est quelques exercices de respiration.
Oui.
Je m'oblige à respirer amplement.
Mmh.
Je m'assois, en principe, quand je peux. Et je visualise ce qui, pour moi, marche à tous les coups. Je visualise une vaste étendue d'eau dans laquelle je me plonge. Et je me dis que je retrouve mon calme, que je deviens calme, que je suis calme. Et petit à petit, mon ambiance intérieure change.
Alors vous avez une boutique, Katia, pour vous créer vos vêtements et puis vous les commercialisez dans votre boutique à Paris, c'est bien ça?
Tout à fait.
Et donc, par exemple, au milieu de votre magasin, ça peut vous arriver d'être stressé par, je ne sais pas moi, une cliente ou autre chose, et de vous prendre le temps de respirer justement, de vous asseoir?
Oui.
Ouais.
Alors c'est pas tellement le fait d'avoir une cliente devant moi, c'est plutôt quand j'ai un vêtement à faire assez compliqué, assez élaboré, eh bien je m'inquiète souvent beaucoup avant.
Est-ce que je vais y arriver?
Comment?
Est-ce que je vais y arriver dans les délais, c'est
exactement
ça?
Exactement.
Ouais.
Le délai me stresse souvent beaucoup parce que je tiens absolument à respecter les délais.
Ouais.
Et c'est souvent ça qui me met dans un état fébrile. Et là, à ce moment-là, quand je peux, je vais marcher. Et je fais l'exercice dont je vous parlais. Je respire, je m'imagine. Ou sous une cascade fraîche. Ou alors je me plonge dans l'eau d'un lac. Et quand je ne peux pas aller marcher, ben je fais ça dans mon atelier. Je m'assois, j'arrête tout. Et je mets mes mains bien à plat sur mes genoux. Et je me plonge dans ces exercices et je retrouve assez vite mon calme.
Oui. C'est quelque chose que vous avez appris avec un coach ou relaxothérapeute, Katia, ou...
Oui, j'ai fait, quand j'étais très jeune, je faisais du yoga, donc je pense qu'il m'en est resté quelque chose. Et puis, j'ai fait effectivement pas mal de stages de développement personnel où j'ai appris ces façons de faire.
Mm-hmm.
Il y a aussi d'autres exercices qui ne me reviennent pas là maintenant, mais... le fait de chanter aussi me calme beaucoup.
Chanter toute seule,
oui,
à tue-tête.
Oui, oui. En chantant très fort, j'ai constaté que ça me décontractait et ça me rassure, ça me redonne une espèce de d'ampleur intérieure que je perds quand je suis énervée.
De confiance en vous finalement,
oui,
de
voilà. Oui.
Sortir de vous-même aussi.
Ouais. Et la marche me fait aussi beaucoup de bien quand je suis préoccupée par une décision importante à prendre. Et ça, j'ai un sentiment d'être nettoyée.
Mmh. Alors, est-ce que c'est des choses que vous faites tous les jours de façon un petit peu préventive ou plus particulièrement quand vous êtes déjà stressée, énervée?
Alors, ce que que j'ai pris l'habitude de faire au fil des années, c'est quelques exercices de gymnastique à la maison avant de partir, en me disant que je suis calme, je maîtrise bien ma vie actuellement, en me répétant des choses positives et rassurantes.
Donc et ça marche fais. Alors c'est des espèces d'injonctions ou de mantras, je ne sais pas
oui,
comment
dire,
positif, oui.
Exactement.
Ça nous aide.
Et puis, donc ça c'est... j'arrive à faire ça quotidiennement et de le faire même avec plaisir et ça m'est devenu facile. Et autrement, quand il survient un événement qui me met mal à l'aise, comme par exemple dans le métro, je prends tous les jours le métro, il y a parfois des moments un peu difficiles parce que des usagers se disputent violemment, on arrive parfois aux mains, ça me met dans un état, ça me déstabilise vraiment. Et alors là, je vais chercher ma petite panoplie d'exercices.
D'accord, donc vous avez votre kit de survie, si je puis dire.
On peut appeler ça effectivement comme ça. Et je, par rapport à quand j'étais beaucoup plus jeune, je trouve ça vraiment très très précieux. Je considère vraiment que c'est comme une richesse de posséder ces outils tout de suite exploitables, quelle que soit la situation. Je trouve que c'est vraiment une richesse que de pouvoir avoir recours à ça. Donc je remercie les personnes qui m'ont enseigné ces petites méthodes.
D'accord, merci beaucoup.
C'est très utile.
Ouais. Finalement, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école. Hein. Hélène Monnet, qu'est-ce que vous en pensez? Dès la maternelle, dès l'école primaire, peut-être?
Ouais. Oui, ça c'est absolument certain. Je crois que la respiration, comme l'a dit fort justement Katia, c'est la base de tout. Parce que la respiration, c'est quelque chose qui nous est bien sûr naturel, qui est tout le temps à disposition, et qui aussi nous permet d'être en contact avec le corps de façon bienveillante. Parce que en Occident, très souvent, on considère le corps un peu trop comme une machine qui doit aller, j'allais dire, de soi. Mais en réalité, tant qu'on n'a pas pris conscience vraiment de son corps, on est coupé d'une partie de sa véritable vitalité, de sa véritable créativité. Donc, à mon avis, les enfants qui peuvent avoir la possibilité, par exemple, de faire une respiration avant un exercice de concentration en grammaire ou en calcul, vont être beaucoup plus performants et je dirais même joyeux. Parce que quelquefois les enfants ont une appréhension par rapport à l'ennui qu'ils vont ressentir ou à la difficulté d'une discipline, alors que tout simplement en reprenant conscience avec le corps, avec leur instituteur ou leur professeur des écoles, comme on dit maintenant, de concert, je pense que ce serait une très très bonne chose, surtout à certains moments critiques de la journée.
J'avais un intervenant il y a un mois environ sur cette antenne, le docteur Patrick Lemoine, qui racontait comment il faisait faire des crises de calme à ses enfants et aux petits invités lors des anniversaires, par exemple. Il les faisait tous allonger par terre en racontant une petite histoire, en les aidant à se décontracter finalement, et ça marchait très très bien. Et après, c'était tranquille, ils étaient beaucoup plus sereins.
Alors il faut effectivement,
la crise de calme,
avec les enfants, profiter de leur envie de jouer. Et dans mes règles d'or, je propose à certains moments de jouer avec certaines choses, comme imiter le calme, justement, avoir en tête une personne qui représente l'impassibilité, le flegme. Enfin, je pense souvent à la reine d'Angleterre.
Ah oui,
bon, c'est comme ça. Eh bien, j'essaye de l'imiter déjà, de faire des gestes un peu plus lents, un peu plus, on va dire, solennels, etc. Alors, ça ressemble au départ à une caricature. Puis, petit à petit, je me laisse prendre au jeu.
Oui.
Et donc, ça marche.
Oui. Bien, Katia, vous voyez autre chose peut-être que vous voulez nous partager avec nous sur votre expérience Est-ce qu'il peut vous aider?
Je crois avoir dit l'essentiel. C'est vraiment les choses qui me viennent le plus facilement, ce dont je vous ai parlé. Il y a peut-être d'autres choses que auxquelles j'ai recours, mais là, ça ne me vient pas. Donc,
très bien.
Voilà, j'ai dit l'essentiel.
Merci. Écoutez la suite de l'émission, les 50 règles d'or, comme ça, vous les retrouverez sans doute avec nos auditeurs. Oui, vous aussi. Merci, Katia.
Merci,
Katia. Bonne journée.
Bonne journée.
Voilà. Alors justement, ces conseils, Hélène, maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc effectivement, le premier que vous donnez dans votre livre, c'est bien la respiration. Je précise que vous avez organisé vos conseils en cinq grandes parties. La première, c'est le kit de première urgence, justement. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce kit? Vous avez effectivement la respiration avant un examen, un entretien ou n'importe quoi d'important. Vous avez aussi bâiller, marcher, couper votre portable, souriez au premier venu dans la rue. Voilà, par exemple, souriez au premier venu. Tiens, je vais prendre celui-là. Ça risque pas de faire un petit peu bizarre à Paris, dans le métro, par exemple?
Alors évidemment, ça peut faire peur quelque part, surtout aux Parisiens qui sont pas forcément enclins à ça. Mais déjà, il faut se dire que quand on a besoin d'un sourire, c'est justement le moment d'en donner un. Alors, il faut choisir évidemment sa cible avec un petit peu de discernement. Un animal, par exemple, risque pas de vous sauter dessus, je pense pas, si vous lui souriez.
Donc on s'entraîne sur son chat pour commencer.
Son chat, son chien, ouais. Son poisson rouge.
Voilà.
Et puis, moi ce que j'adore dans la rue, c'est sourire aux enfants. Parce que ça me met tout de suite de bonne humeur et en général, en plus, ils me rendent mon sourire. Mmh. Donc, si c'est un sourire authentique qui vient du cœur, hein, pas, je vous parle pas d'un sourire crispé, figé pour faire bonne figure. Hein, il s'agit pas de ça, bien évidemment.
Donc c'est un petit peu comme l'imitation de tout à l'heure. Finalement, le fait de commencer à sourire, ça va faire venir le sourire intérieur. On commence par le montrer et on le ressent très vite à l'intérieur.
Les zygomatiques, que je sache, sont reliées au cerveau. Donc, si on les actionne, on arrive forcément à avoir, au bout d'un certain temps, une production, je pense, de sérotonine ou en tout cas un apaisement intérieur qui se fait de façon complètement réflexe.
Alors vous conseillez aussi, par exemple, d'imiter le calme, comme vous disiez tout à l'heure, même quand on est en colère, certains peuvent avoir envie plutôt de sauter, de crier, et vous dites imiter le calme. Comment on fait?
Alors imiter le calme, c'est vrai que c'est plus difficile. Il faut déjà être dans une certaine dérision vis-à-vis de soi, un minimum de pratique habituelle de l'humour pour pouvoir le faire, hein, je le précise. Je crois que c'est important de se rendre compte qu'on est coupé du calme et de se dire quelle est la personne que je peux invoquer, personnage emblématique ou personne dans l'entourage qui peut tout d'un coup, quand je la visualise, me donner envie de lui ressembler. Et dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est de commencer par le corps, de se mettre dans une attitude un peu solennelle, un petit peu lente, en pesée éventuellement, en accomplissant ces gestes, les accomplir en toute conscience, comme si on était un personnage à incarner devant une caméra. On imagine qu'il y a une caméra invisible devant soi et qu'on joue un personnage. Et petit à petit, au bout de quelques minutes, on se laisse prendre au jeu et on s'aperçoit qu'effectivement, notre adrénaline a baissé. Mmh.
Alors dans le registre un petit peu différent, vous conseillez aussi d'exprimer ses émotions. C'est-à-dire on est triste, on pleure, c'est ça?
Alors
on est en colère, on crie.
C'est pas aussi simple.
Ouais.
C'est pas aussi simple parce que déjà il faut reconnaître quelle est l'émotion qui nous perturbe. Ça demande un peu de temps.
Et une fois qu'on a vu ce qui se passe, l'important c'est de pouvoir s'isoler et de pouvoir aller jusqu'au bout de l'émotion. Parce que tant que cette émotion n'a pas été complètement au bout d'elle-même, si je puis dire, elle va toujours demeurer, voire se transformer, se somatiser éventuellement. Donc moi je conseille toujours aux personnes qui sont dans la colère, notamment, de s'isoler dans les premières toilettes venues, par exemple, ou dans un vestiaire. Et puis, si elles sont un minimum isolées phoniquement, de vraiment pousser le ventre en avant en émettant un son. Parce ouais. que l'endroit de la colère, c'est ce qu'on appelle le chakra du hara, qui se trouve en fait au niveau du bas-ventre. Et de libérer ce son plusieurs fois va vraiment permettre de laisser un accès à la colère, qui sera sain. Par contre, la tristesse, c'est aussi important d'aller jusqu'au bout des pleurs. Même les messieurs ont le droit de pleurer aussi, en toute intimité, dans un coin, en allant jusqu'au bout de cette tristesse, parce que souvent, au bout de la tristesse, il y a la joie. Et une vraie joie. Donc c'est intéressant d'épuiser les larmes, d'épuiser ce sentiment de quelquefois de nostalgie ou de s'abandonner tout simplement,
de s'autoriser à faire ça.
Voilà. Donc hors des yeux indiscrets et pleinement avec moult Kleenex et voilà.
Alors après, vous avez une deuxième série de conseils, c'est les conseils carpe diem, c'est-à-dire profiter de l'instant présent.
Alors cueille là, le jour.
Voilà, littéralement. Donc là, il y en a pas mal. Moi, il y en a un qui me plaît bien, par exemple, c'est programmer une journée sans rien de prévu.
Alors ça, c'est quelque chose qui semble curieux, de programmer justement quelque ouais. chose de pas prévu. Mais bon, si on veut vraiment avoir une plénitude dans cet exercice, il faut avoir un certain temps devant soi, donc le programmer. Alors, ne rien prévoir, ça peut être tout simplement se dire, voilà, pendant un certain nombre d'heures, je vais m'accorder à moi-même un certain nombre de petits plaisirs au fil de l'eau, c'est-à-dire en fonction de ce que la vie me donne ce jour-là. Et puis, par exemple, aller se promener dans sa ville en ayant l'impression d'y être pour la première fois, de redécouvrir en fait. Et de se laisser guider, par exemple, par les feux verts qui sont devant soi, les feux rouges qui vous arrêtent, et puis de continuer cette promenade comme ça. Moi, je le fais en fait assez régulièrement à Paris le 15 août, parce qu'il n'y a personne.
Ouais.
Et c'est une aventure qui m'a menée dans des quartiers où je n'avais jamais mis les pieds.
Donc surtout, pas de but précis. On voit ce qui vient.
Voilà.
Ouais. C'est important. Après, il y a un autre conseil qui est aussi chanter sous la douche ou chanter où vous voulez finalement. Hein. Chanter.
Alors,
sous la douche, c'est mieux peut-être.
Sous la douche, c'est intéressant parce que l'eau est quand même un sacré auxiliaire pour chanter. Parce que quand on a la possibilité de se retrouver seul, nu sous la douche, dans sa propre intimité, on est dans un état qui peut être beaucoup plus proche de l'euphorie que dans d'autres circonstances. Donc déjà, si on est dans l'écoute du corps pleinement et que on émet à ce moment-là une chanson qui nous vient, ce qui est important, c'est qui vient sans forcément vouloir imiter la Callas ou Pavarotti.
Sans vouloir chanter juste, forcément.
Sans vouloir chanter juste.
C'est pas une obligation.
Absolument. D'être dans cet état de lâcher du son avec l'accompagnement de l'eau sur soi à bonne température. Alors évidemment, c'est peut-être pas forcément très écologique quelquefois parce qu'il faut rester un certain temps sous la douche. Mais, il y a une alchimie entre l'eau et le son.
On peut faire ça dans son bain aussi. dans son bain,
oui,
avec des huiles essentielles pour mieux se relaxer.
Alors justement, je propose une huile essentielle en particulier, qui est l'huile essentielle du lâcher prise, qui est la pruche. Oui, que tout le monde ne connaît pas, mais qui est très 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 utile pour se délasser et qui apporte aussi un petit plus, qui est la créativité, l'inspiration. C'est aussi l'huile essentielle des artistes. L'huile de pruche.
La pruche. Alors, donc, chanter, danser aussi, danser tout seul à la maison, comme ça, on se met une bonne musique et puis on s'éclate devant son miroir ou seul
oui,
avec soi-même.
Devant son miroir ou pas. L'important est de trouver la musique qui fait tilt. Ça peut être le rock ou le disco de ses 15 ans. C'est quelquefois une musique qui est bien sûr une valeur sentimentale très forte et qui a le don de nous faire nous lever et lâcher complètement avec le mental. C'est ça le but.
Donc après, bon, bah, il y a plein de conseils là-dedans, hein, dans le Carpe Diem. Après, il y a la troisième série qui est intéressante aussi. C'est là où il faut dire stop. Tout ce qu'il faut arrêter de faire. Ah non, j'en oubliais un dernier là-dedans que j'aime bien aussi. C'est dans les stops. Ne vous comparez plus aux autres, par exemple.
Ah oui. Alors ça, c'est très, très important.
Très important.
Parce que c'est une source de souffrance inaltérable, se comparer à autrui, parce qu'il y a toujours plus beau, plus riche, plus intelligent, apparemment. Je dis bien apparemment parce qu'en fait, notre première richesse, c'est notre unicité. C'est le fait que personne n'a existé avant nous et n'existera après nous. Donc, c'est complètement inutile, pour ne pas dire dangereux, de se comparer à autrui. On a, depuis notamment les dernières recherches en neurosciences, vu à quel point nous avons une perception du monde qui est vraiment spécifique. Donc, autant obéir à ce qui nous convient véritablement et ne pas perdre du temps et de l'énergie psychique à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, comme on dit.
Il y en a un autre que j'aime bien aussi. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous fixez pas des objectifs inatteignables ou n'essayez pas de tout faire en une journée.
Alors, monsieur Lapalisse l'aurait sans doute dit, mais il faut quand même prendre conscience que les journées n'ont que 24 heures. Donc, on a très souvent l'impression que la journée va être infinie. Non, elle est finie. Elle a une durée très précise. Donc, partant de là, de cette réalité, inutile de faire des listes et de s'obliger à les remplir absolument, puisque de toute façon, la vie est faite d'imprévus et d'ajustements en permanence. Donc, on se rend malheureux si on estime qu'aujourd'hui, on doit absolument avoir rempli tout ce qu'il y a dans cette liste. Donc, et si on considérait plutôt l'important plutôt que l'urgent. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte dans notre vie d'occidental moyen. Je crois que c'est très, très urgent de prendre en compte l'important.
Et de laisser une petite place toujours pour l'imprévu. Hein.
Et de laisser une
voilà, un petit peu de liberté, de souplesse et puis si on n'a pas tout fait, ben, déjà se féliciter de ce qu'on a fait, peut-être.
Exactement. Ouais. Et puis de se dire, voilà, si au moins j'ai fait le tiers de ma liste, je serais content.
Ouais, sachant qu'on en met toujours trop de toute façon.
Voilà. Ouais, et puis, ce que je trouve curieux, c'est que quand on fait un budget, il y a toujours une case imprévue. Il y a 10% d'imprévu. Pourquoi on mettrait pas la même chose dans nos listes?
Ouais. Il y en a une que j'aime bien aussi, c'est un petit peu de saison d'ailleurs. Faites le vide dans vos placards. Une fois de temps en temps, une fois, deux fois par an, ça fait un bien fou. Hein.
Alors, c'est très, très anodin apparemment, mais le fait de se désencombrer, notamment d'objets qui sont inutiles depuis X temps, dont manifestement on n'a plus l'usage, et de se dire, oh là là, au cas où ça pourrait servir, on se met dans une espèce d'anticipation qui n'a pas lieu d'être. Alors, c'est très important aussi dans ces cas-là d'avoir quelquefois une aide extérieure parce qu'on ne voit plus ce qui est à garder.